Chapitre 4 Versets 1 à 11 Le repos auquel conduit le désert. Citation de l'Écriture. Craignons donc qu'une promesse ayant été laissée d'entrer dans son repos, quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas l'atteindre. Car nous aussi, nous avons été évangélisés de même que ceux-là. Mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. Car nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Comme il est dit, « Ainsi, je jurai dans ma colère, s'ils entrent dans mon repos. » Bien que les œuvres aient été faites dès la fondation du monde. Car il a dit ainsi quelque part touchant le septième jour, « Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres au septième jour. » Et encore dans ce passage, « S'ils entrent dans mon repos. » Puis donc qu'il reste que quelques-uns y entrent, et que ceux qui auparavant avaient été évangélisés ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance, encore une fois, il détermine un certain jour, disant, en David, si longtemps après, « Aujourd'hui, comme il a été dit auparavant, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car si Josué leur avait donné le repos, ils n'auraient pas parlé après cela d'un autre repos. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos, lui aussi s'est reposé de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes propres. Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en imitant une semblable désobéissance. Fin de citation. La traversée du désert par les enfants d'Israël, dont l'auteur a parlé dans le chapitre 3, versets 7 à 19, avait en vue le repos de Canaan. C'est dans ce repos que ceux qui sortirent d'Égypte ne purent entrer, à cause de la dureté de leur cœur, de leur péché et de leur incrédulité. Chapitre 3, versets 15, 17 et 19. Comme Israël autrefois, les croyants, aujourd'hui, traversent un monde qui est un désert et se dirigent vers le repos de la gloire à venir. Ce repos est le grand sujet des 11 premiers versets du chapitre 4. Remarquons que c'est du repos de Dieu que parle l'auteur. Il est appelé « son repos » et, dans les citations tirées de l'Ancien Testament, « mon repos » chapitre 3, verset 18 et chapitre 4, versets 1, 3 et 5. Ce repos, le repos de Dieu, est entièrement futur. Ce n'est pas le repos de la conscience, actuel, que la foi en Christ et en son œuvre donne aux croyants. Selon les paroles du Seigneur, « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas non plus le repos du cœur, qui est la part journalière de celui qui marche dans l'obéissance à Christ, se soumettant à sa volonté, selon la suite du passage, « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. » Car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Matthieu 11, versets 28 et 29. Et ce n'est pas davantage le repos momentané d'un serviteur fatigué dont il est parlé dans les évangiles lorsque le Seigneur dit « Venez à l'écart vous-même dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Parole qui implique qu'il nous faut travailler de nouveau. Marc 6, verset 31. Dieu ne peut se reposer que là où son amour et sa sainteté sont satisfaits. Le repos de Dieu sera atteint lorsque son amour aura accompli tout son propos envers ceux qu'il aime. Quand la justice sera établie, que les peines et les soupirs auront disparu, Dieu se reposera dans son amour. Sophonie 3, verset 17. La sainteté ne peut trouver son repos là où elle péchait. L'amour ne peut trouver son repos là où sont les peines. Pensée de Jeanne d'Arby. Le chrétien est appelé hors de ce monde fébrile pour avoir part au repos du ciel. Pour le moment, il est dans le désert. Il n'est ni du monde qu'il a quitté, ni dans le ciel où il se rend. La foi considère le repos céleste vers lequel nous nous dirigeons, que Christ nous a assuré et où il se trouve, comme nous le lisons plus loin, Christ est entré dans le ciel même afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Chapitre 9, verset 24. Ayant cette promesse bénie, Nous sommes mis en garde de paraître ne pas atteindre ce repos de Dieu. Le simple professant, qui abandonne sa profession chrétienne et retourne au judaïsme, ne paraîtrait pas seulement ne pas l'atteindre, il ne l'atteindrait pas, en fait, et périrait dans le désert. Mais le vrai croyant peut sembler ne pas l'atteindre, en retournant au monde et en s'installant sur la terre. Autrefois, Israël avait entendu parler d'un pays ruisselant de lait et de miel, mais hélas, ils ne crurent pas la parole. Les bonnes nouvelles annoncées aux chrétiens sont encore plus glorieuses. Elles parlent d'une félicité encore plus grande dans le repos éternel du ciel. Ces gloires à venir sont des réalités pour la foi. Si la parole n'est pas mêlée avec de la foi, elle ne servira pas plus aujourd'hui qu'autrefois à celui qui l'entend. Toutefois, bien que quelques-uns autrefois n'aient pas cru la bonne nouvelle du repos de Canaan, et bien que la grande masse professante aujourd'hui ne croit pas à la bonne nouvelle du repos céleste, le fait demeure avec toute sa valeur. Dieu a un repos futur et les croyants y entreront. Chaque pas les rapproche de ce repos de Dieu. Le simple professant, sans foi personnelle en Christ, tombera irrémédiablement dans le désert. Le serment de Dieu, s'ils entrent dans mon repos, citation du verset 11 du psaume 95, signifie en fait « ils n'entreront pas dans mon repos ». L'auteur fait allusion à la création pour montrer que dès le commencement, Dieu a eu le repos devant lui. Après la formation du monde et la création de l'homme à l'image et selon la ressemblance de Dieu, les œuvres de Dieu en création étaient terminées. Cela conduisit au repos de la création, avec ses deux caractères distinctifs, d'abord la satisfaction de Dieu en tout ce qu'il avait fait, comme nous lisons « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon ». Ensuite, l'arrêt de toute son œuvre en création, selon qu'il est dit « Dieu se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il fit ». Genèse 1, verset 31 et 2, verset 2. Le repos de la création est une préfiguration du repos éternel. Ce repos de la création a été interrompu par le péché. Toutefois, Dieu ne renonce pas au propos de son cœur d'avoir un repos éternel, qu'aucun péché ne viendra jamais troubler. Ainsi, au jour de Josué, le repos de Dieu est de nouveau placé devant nous, car une fois encore la bonne nouvelle en est annoncée, même si Israël fut empêché d'en jouir en raison de son incrédulité, de sorte que Dieu dut déclarer « S'ils entrent dans mon repos » psaume 95, verset 11. En dépit du fait que le péché avait interrompu le repos de la création et que l'incrédulité avait gâté le repos de Canaan, Dieu nous assure qu'il a encore un repos devant lui, qu'il appelle « mon repos ». Et il y en a encore quelques-uns qui entreront dans ce repos, même si ceux à qui il avait été d'abord annoncé n'ont pu l'atteindre à cause de leur incrédulité. Le propos de Dieu ne peut être annulé par le péché ou par l'incrédulité de l'homme. Si le repos de la création est troublé et le repos de Canaan perdu, quel est le repos de Dieu dans lequel ceux qui croient doivent entrer? Josué n'avait pu introduire le peuple dans le repos de Canaan. Aussi David, longtemps après, parle d'un autre repos en un certain jour. Pour présenter ce repos, l'auteur cite les versets 7 et 8 du psaume 95. Ce psaume invite Israël à se tourner vers l'Éternel avec reconnaissance en raison de la future venue de Christ sur la terre pour introduire la nation dans le repos. En vue de la bonne nouvelle de ce nouveau jour de grâce, Israël est averti de ne pas endurcir son cœur comme au jour de Josué. Refuser ce nouvel appel serait se priver du repos terrestre sous le règne de Christ. L'auteur conclut son argumentation en disant « Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Et le principal caractère de ce repos sera la fin du labeur, car celui qui est entré dans son repos, lui aussi s'est reposé de ses œuvres. » Cette grande vérité est ainsi établie. Qu'il s'agisse du repos céleste de Dieu pour un peuple céleste, ou du repos terrestre de Dieu pour son peuple terrestre, Le repos est encore à venir. C'est un repos vers lequel la foi tend. En outre, ce n'est pas le repos à l'égard du péché, mais le repos à l'égard du labeur, et non pas parce que l'ouvrier est fatigué, mais parce que son œuvre est achevée. Comme l'a dit un autre, nul repos actuel n'est le repos de Dieu, et le caractère futur de ce repos est une précieuse sauvegarde contre le piège qui guette tout chrétien, et plus que tout autre un chrétien d'entre les Juifs, de le chercher maintenant ici-bas. De même que Dieu ne peut se reposer là où règnent le péché et la misère, nous ne le devrions pas davantage, ne pas même désirer nous reposer, encore moins nous installer ici-bas. Aujourd'hui, c'est le temps du travail d'amour, si nous connaissons son amour. Aujourd'hui, c'est le temps de chercher de vrais adorateurs pour le Père, comme lui-même en cherche. Pensée de William Kelly. Le repos étant futur, avec la félicité qu'il apporte, nous sommes exhortés à travailler ou à nous appliquer à entrer dans le repos qui est devant nous. Plus loin dans l'Épître, nous sommes de nouveau exhortés à l'œuvre et au travail d'amour, à montrer de la diligence, à ne pas devenir paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et par la patience, héritent de ce qui avait été promis. Chapitre 6, versets 10 à 12. Il y a pour nous le danger soit de mépriser le repos de Dieu, qui est placé au bout de la course, soit de nous lasser du travail d'amour en chemin. Israël a failli des deux côtés. Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en imitant une pareille désobéissance. Les deux grandes exhortations sont « Craignons donc, afin que nous ne méprisions pas la promesse de repos » et « Appliquons-nous donc sur le chemin menant au repos ». Versets 12 à 16, les ressources de Dieu pour nous garder pendant la traversée du désert. Citation de l'Écriture. Car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Fin de citation. Les derniers versets du chapitre 4 placent devant nous les deux grands moyens par lesquels les croyants sont préservés pendant leur marche dans le désert jusqu'au repos de Dieu. D'abord la parole de Dieu, versets 12 et 13, ensuite le service sacerdotal de Christ, versets 14 à 16. Il nous est rappelé que la parole de Dieu n'est pas une lettre morte, elle est vivante et agit en pénétrant le cœur de l'homme. Pour celui dont le cœur et la conscience viennent sous son influence, le résultat est double. D'abord, elle discerne les pensées et les intentions du cœur, puis elle amène l'homme dans la présence de Dieu à qui nous avons affaire. La parole nous découvre les convoitises cachées de l'âme, de même que les raisonnements et l'incrédulité de l'esprit. Elle nous révèle ainsi le vrai caractère de la chair en sondant les pensées et les intentions secrètes du cœur. Il n'est pas question ici de péchés extérieurs, mais plutôt des motifs cachés et des ressorts du mal. La parole nous découvre les profondeurs insoupçonnées du cœur, manifestant combien le moi est le motif secret de la vie. En outre, étant la parole de Dieu, elle nous introduit dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui me parle, qui met mon cœur à nu dans sa présence, pour que je confesse là tout ce que la parole détecte. Pourquoi Israël tomba-t-il dans le désert? N'est-ce pas parce que la parole prêchée ne leur profita de rien? S'ils avaient par la foi donné à cette parole sa place dans leur cœur, elle les aurait amenés à découvrir et à juger les racines secrètes d'incrédulité qui les empêchèrent d'entrer dans le repos. Ainsi, tout ce qui pourrait nous empêcher de tendre vers le repos de Dieu, tout ce qui nous inciterait à nous installer dans ce monde, est détecté et jugé par la parole, dans la présence de Dieu, afin que l'âme soit libérée pour poursuivre le pèlerinage et l'œuvre d'amour, ayant le repos de Dieu devant elle. De plus, en nous amenant à juger les agissements secrets de notre volonté, la parole de Dieu nous prépare à profiter du secours et de la sympathie de Christ, notre souverain sacrificateur. Nous n'avons pas seulement à lutter contre les racines cachées du mal dans notre cœur, mais nous sommes environnés d'infirmités et confrontés à des tentations. Pour agir contre le mal secret de nos cœurs, nous avons besoin de la parole. Pour nous aider en présence des infirmités et des tentations, il nous faut une personne vivante. Il nous faut quelqu'un qui nous représente, qui, à tout instant, connaît toutes nos difficultés et nos faiblesses et s'y intéresse, et qui peut sympathiser avec nous parce qu'il a lui-même connu les tentations et les difficultés que nous avons à rencontrer. Nous avons un tel souverain sacrificateur, Jésus le Fils de Dieu. Il a été devant nous, dans le chemin qui conduit au repos de Dieu. Il a passé par toutes les étapes du chemin, il a traversé les cieux, il a atteint le repos de Dieu. Dans toutes nos faiblesses, il peut nous aider pendant la traversée du désert jusqu'à ce que nous nous reposions là où lui se repose, au-dessus et au-delà de toute épreuve et de toute tentation, là où le labeur a cessé pour toujours. Ayant un tel souverain sacrificateur, nous sommes exhortés à tenir ferme notre confession. Ce n'est pas simplement tenir ferme la confession que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, aussi important et béni que cela soit, mais plutôt la confession que nous sommes participants à l'appel céleste. Notre confession, c'est que, comme participants à l'appel céleste, nous entrerons dans le repos de Dieu. Le danger est qu'en présence de la tentation, en raison de nos infirmités, nous abandonnions cette confession et que nous nous installions dans une routine de service fébrile ou même dans le monde lui-même. Nous avons besoin du secours et de la sympathie de notre grand souverain sacrificateur, d'abord à cause de nos infirmités et ensuite à cause des tentations que nous rencontrons. Les infirmités sont les faiblesses qui s'attachent à nous comme étant dans le corps, ce corps qui éprouve divers besoins et qui est sujet aux maladies et aux accidents. L'infirmité n'est pas le péché, bien qu'elle puisse y conduire. La faim est une infirmité. Murmurer à cause de la faim serait un péché. Paul, apprenant la suffisance de la grâce de Christ en présence de ses infirmités, peut même dire « Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités. » Et encore « Je prends plaisir dans les infirmités. » 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. Il ne se serait pas glorifié dans ses péchés, ni n'aurait pris plaisir à pécher. Quant aux tentations, souvenons-nous que le croyant est soumis à deux formes de tentations, celles qui viennent des épreuves extérieures et celles qui viennent du péché intérieur. Ces deux formes de tentations sont placées devant nous par Jacques. Il dit d'abord « Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses tentations. » Il y a différentes tentations extérieures par lesquelles l'ennemi cherche à nous détourner de l'appel céleste et à nous empêcher de tendre vers le repos de Dieu. Puis Jacques parle d'une tentation de caractère très différent quand il dit « Mais chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise. » C'est la tentation du péché de l'intérieur. Jacques 1, versets 2 et 14. Dans ce passage des Hébreux, c'est la première forme de tentation qui nous est présentée, la tentation de nous détourner du sentier de l'obéissance à la parole de Dieu qui mène au repos de Dieu. En outre, le diable cherchera à se servir des infirmités du corps pour nous tenter et nous détourner, exactement comme il a cherché à se servir de la faim pour détourner le Seigneur du chemin de l'obéissance à Dieu. Dans cette forme de tentation, nous avons la sympathie du Seigneur, car lui-même a été tenté, en toutes choses comme nous. Mais il est ajouté, à part le péché. Il n'a rien connu, de la seconde forme de tentation. Nous avons une ressource en présence de ces infirmités et de ces tentations. Quelles que soient les difficultés que nous ayons à rencontrer, quelle que soit l'intensité de nos épreuves et de nos tentations, quoi qu'il puisse arriver, la grâce est là pour nous aider à faire face à l'épreuve. Nous avons accès au trône de grâce. Nous sommes ainsi exhortés à nous en approcher, c'est-à-dire à nous approcher de Dieu lui-même. Il ne nous est pas dit de nous approcher du souverain sacrificateur, mais de Dieu. Et nous pouvons le faire avec hardiesse, car le souverain sacrificateur nous représente au trône de la grâce. Si nous nous approchons, nous trouvons miséricorde. Non pas parce que nous sommes tombés, mais pour que, dans l'épreuve, nous ne tombions pas. Le moment opportun n'est pas ici le moment de la chute, mais le moment où nous sommes soumis à des épreuves et à des tentations qui pourraient entraîner la chute.